toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors l'un des plus grands et des stratagèmes les plus subtils de Satan consiste, et nous avons parlé un peu de ça la dernière fois, mais consiste à séparer notre concept de la direction de l'esprit de, ça c'est un côté, de la présence et la direction de la sainte parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit et il y a la sainte parole. Et Satan veut qu'on sépare ces deux idées dans nos esprits, dans nos vies. Ce serait comme si on pouvait séparer Christ et la croix. C'est ce qu'il veut faire aussi, hein. Les gens viennent Christ, ils aiment Christ, mais sans connaître, sans comprendre, sans mettre leur confiance dans ce qu'il a fait sur la croix. C'est la même chose avec l'esprit. Il veut bien qu'on parle de l'esprit, qu'on se dit dirigé par l'esprit, si on peut diviser cela avec la parole de l'esprit ou la parole de Dieu. Et ça se fait dans les deux sens. On peut divorcer la parole de l'esprit. D'accord ? On peut juste lire la Bible comme un simple document historique ou intellectuel sans réfléchir au fait que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle à travers la Bible. Et on peut divorcer aussi l'Esprit de sa parole et penser que l'Esprit va nous communiquer des choses, va nous diriger dans certaines directions sans la présence de sa parole. Mais l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ne doivent jamais être séparés. En fait, la Bible nous montre le rôle de l'Esprit dans la rédaction de la Bible, dans la transmission de la Bible, dans la compréhension de la Bible, dans la réception de la Bible. Et nous avons vu qu'on peut comprendre ce verset 17 dans ce sens. L'épée qui est l'Esprit, c'est-à-dire quand on prend l'épée, on prend l'Esprit. On ne peut pas séparer les deux. Mais c'est aussi vrai que l'Esprit, quand il agit, il se sert de la parole de Dieu. C'est son outil. Et c'est dans ce sens que je veux nous amener à méditer ce soir. La parole de Dieu est l'arme de choix du Saint-Esprit. Okay, ça c'est le concept que je veux répéter plusieurs fois. La parole de Dieu est l'arme de choix du Saint-Esprit. On ne peut pas dire, prenez par exemple le verset juste avant. On ne peut pas dire que l'Esprit se sert de la bouclier de la foi dans son combat. Est-ce que le Saint-Esprit met le bouclier de la foi? Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de vivre par la foi parce que le Saint-Esprit étant esprit, il voit et comprend les choses célestes et spirituelles et il est déjà dans les cieux. Mais nous pouvons dire sans aucun doute que le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu comme arme dans son, dans sa lutte contre l'ennemi. Donc quand on vient à la parole de Dieu, là on peut dire, ça c'est une arme que le Saint-Esprit utilise dans, dans la lutte contre l'ennemi. Alors, il se peut que ce passage soit en train de nous dire juste cela, hein, qu'en prenant cette épée, nous prenons l'arme dont Dieu, le Saint-Esprit, se sert dans ses batailles. Pour illustration, imaginez qu'on vivait à l'époque, hein, où, où pour faire la guerre, il fallait des épées, etc. Et que vous êtes prêt, vous vous apprêtez même pour passer à la, pour rentrer dans la bataille. Et le général qui jusqu'ici a été victorieux dans, dans tous ses combats, il vous approche et il dit, je vais te confier mon épée personnelle, celle avec laquelle j'ai déjà gagné plein de batailles. Et tu regardes ton propre épée et tu vois qu'elle est, elle est vraiment, elle est pas bonne, elle est même pas aiguë, elle n'est pas à deux tranchants, elle est petite. Et tu vois son épée à lui, tu dis, ça serait une bonne arme. Je vais avoir l'arme, pas n'importe quelle arme, mais l'arme qui a été conçue pour le général et utilisée par le général. Ça, c'est l'arme que je veux. Et Dieu nous dit ici, écoutez, quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez l'arme de l'esprit. Et je vais dire, montrer trois choses par rapport à la relation entre l'esprit et la parole de Dieu. Et la première, c'est ceci. On n'a pas de PowerPoint ce soir, donc vous devez bien écouter, vous pouvez noter si vous voulez. La parole de Dieu, d'abord, c'est l'arme que l'esprit s'est forgée lui-même. C'est l'arme que l'esprit s'est forgée lui-même. Il a, si vous voulez, c'est comme si le général disait, c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est moi qui l'ai fait. Connaissant la guerre, connaissant les batailles, moi, je l'ai fabriqué exprès pour toi. Je vais vous donner plusieurs versets ici, vous n'avez pas besoin de les chercher, mais en parlant de la loi de Moïse, Zacharie 7, 12 dit, « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. » Donc, l'esprit est l'auteur de la loi de Moïse. Acte 4, versets 24 et 25. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Et puis cite les psaumes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc, on voit que le Saint-Esprit est associé donc avec la rédaction des psaumes. On voit ça aussi en Matthieu 22. Où il dit, Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, et puis il cite les psaumes, le psaume 110. Donc on a la loi, on a les psaumes, acte 28, 25, Paul dit, c'est à la fin du livre, il dit aux Juifs qui sont là, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète, Ésaïe a dit, et puis il cite les prophètes. Donc, on a la loi, on a les psaumes, on a les prophètes aussi, associés encore à l'esprit. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a forgé cette arme que nous appelons la parole de Dieu. Et puis, en hébreu, deux versets en hébreu. Ce qui est intéressant ici, en hébreu 3 d'abord, si vous voulez trouver, et puis hébreu 10. C'est que ce même schéma se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, mais l'auteur ne mentionne même pas l'auteur humain et attribue des passages directement au Saint-Esprit. Donc, Hébreux 3, verset 7, il va dire ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et il cite ensuite le psaume 95, sans prendre la peine de mentionner l'auteur humain. Et puis, si vous y êtes, trouvé Hébreux 10, et verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, et là, il va citer Jérémie 31, mais sans mentionner Jérémie, le nom de Jérémie. Il dit simplement, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Donc, dans ces exemples, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne considère pas Jérémie ou l'auteur du psaume 95, en fait, comme pertinent pour son argument. Son objectif semble simplement de souligner que les Écritures qu'il cite proviennent directement du Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle, c'est dans le présent, il dit. Ok, donc on a la loi, les psaumes, les prophètes. Qu'en est-il des évangiles ? Jean, chapitre 14. Regardez les versets 25 et 26, Jean 14, 25. Jésus, en fait, il parle dans son rôle de prophète ici, parce qu'il est le grand prophète. Et il parle du Saint-Esprit, il parle de son ministère. Et il dit, Jean 14, 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, c'est qui le Consolateur ? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il fera ? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous dis. » C'est très beau là, on voit la Trinité. Le Père va envoyer l'Esprit en mon nom et l'Esprit va les rappeler de ce que Jésus a dit. Regardez Jean 16. Jean 16, peut-être une page de plus, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, » qu'est-ce qu'il appelle ici, le Consolateur ? L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, on peut ajouter les évangiles aussi. Le rôle du Saint-Esprit dans la rédaction de la loi, des prophètes, des psaumes, des évangiles. Et puis deux exemples qui parlent de toute la Bible, j'espère que vous connaissez bien ces deux exemples. 2 Pierre 1, 21, 20 et 21. Il dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est quoi ? Voilà, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc vous voyez, c'est la parole de Dieu, il y a les hommes, mais ils sont poussés par le Saint-Esprit. Et puis, on n'a pas le nom du Saint-Esprit ici, mais c'est le verset clé, hein. 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture est voilà, inspirée, soufflée de Dieu. » Soufflée de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit, c'est parti de mon tête, accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu, c'est l'arme donc, que l'Esprit s'est forgé lui-même. Okay, on va imaginer comme une arme, il a forgé. Et puis, deuxièmement, la parole de Dieu, c'est l'arme que l'Esprit utilise aussi lui-même. Donc, il a forgé cette arme, cette épée, mais l'Esprit l'utilise. Comme j'ai dit, hein, il n'utilise pas forcément le bouclier de la foi, mais quand l'Esprit va à l'attaque, il se sert de la parole de Dieu. Alors, quatre exemples pour cela. Le premier, c'est en Luc 4. Luc 4. Et versets 17 à 21. Luc 4, versets 17 à 21. Nous sommes au tout début du ministère de Jésus. On ne va pas tenir tout le contexte, mais il est dans sa ville natale, et Luc 4, verset 17, dit, « On lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, et sachez que plus tard, il va dire, ça se passe aujourd'hui dans ma vie, hein, dans mon ministère, mais verset 18 dit, et il cite maintenant les prophètes, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Wow, ok. Il m'a oint. Le mot, celui qui est oint, c'est le quoi? Voilà, c'est le Messie, hein? C'est le mot pour Christ. Donc il est le Christ, le Messie, il est oint pour faire quoi? Voilà, pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez au début du verset 19, pour proclamer. Donc, voyez donc, l'Esprit se sert donc de la parole de Dieu. Même le Christ, quand il vient, quand il est loin, par l'Esprit, c'est pour proclamer, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit a oint Jésus donc pour qu'il annonce une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il proclame la liberté aux captifs, qu'il proclame l'année de la faveur du Seigneur. Il s'agit d'affirmations concernant Jésus qui parlait la parole de Dieu aux hommes. Hein, Jésus va dire, écoute, je ne donne rien sauf, je ne parle pas de mon propre chef, je parle de la part de Dieu. L'Esprit a donné à Jésus le pouvoir de transmettre le message pour lequel il a été envoyé. Ça, c'est Jésus. Maintenant, Pierre. On ne va pas le lire, mais acte 2. Acte 2, c'est un long serment de la part de Pierre. Et rappelez-vous que ce même Pierre, juste quelques semaines auparavant, il avait renié Jésus 3 fois par crainte de l'homme. Et maintenant, il est devant ces mêmes personnes, hein, mais beaucoup plus. Plus de 3000 personnes. Et il est transformé. Pourquoi il est transformé? Parce que le Saint-Esprit lui a été donné. Et l'Esprit en lui le pousse à faire quoi? Ce que Jésus a fait, en fait. Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle. Et après ce serment, 3000 personnes deviennent chrétiennes. Acte 4, verset 31, troisième exemple, les apôtres. Donc on est Jésus, Pierre, maintenant tous les apôtres. Vers la fin, acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils... Voilà, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Encore, le Saint-Esprit, quand il entre, quand il remplit, quand il fortifie, quand il donne cette assurance, que ce soit à Jésus, que ce soit à Pierre, que ce soit aux apôtres, c'est pour annoncer. Ça, c'est l'arme de choix du Saint-Esprit. Et puis, 1 Thessaloniciens 1, l'exemple de Paul ici. 1 Thessaloniciens 1, si vous pouvez les trouver parce qu'on va le voir aussi pour le troisième grand point. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alors nous on ne voit pas l'élection d'une personne. C'est ce que Dieu fait. C'est invisible. Comment est-ce que Paul sait qu'ils sont élus? Verset 5, notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Qu'est-ce que ça veut dire puissance? Il le dit juste après, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En faisant quoi? En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Là encore, nous voyons que quand il annonce par le Saint-Esprit, quand il œuvre par le Saint-Esprit, c'était avec la prédication. Hein? Notre évangile, donc il dit, vous a été prêché avec l'Esprit Saint. Ce qu'il est en train de dire, il le dit dans le négatif, mais Si on mettait la même chose dans le positif, il dit, notre évangile vous a été prêché par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, avec plein de persuasion, avec puissance. Donc Jésus, Pierre, les apôtres, Paul, on voit que le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu comme son outil à travers ses serviteurs. Charles Siméon, je l'ai cité il y a plusieurs semaines, et donc je lisais encore aujourd'hui, et il a dit ceci, il a dit, c'est par les Écritures que l'Esprit Saint parle aux hommes. Certes, dans les premiers âges du monde, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il a éclairé les hommes par des songes et des visions, mais depuis la publication de la parole écrite, et surtout depuis l'achèvement du canon sacré, il a appelé les hommes à la loi et au témoignage. C'est une phrase qui vient d'Ésaïe. Ils ont Moïse et les prophètes, dit notre Seigneur, qui les écoutent, Luc 16, 29. Et encore, sondez les Écritures, car c'est en elles que vous avez la vie éternelle, Jean 5, 39. Nous ne disons pas que le Saint-Esprit n'utilise jamais d'autres moyens pour vivifier ou réconforter l'âme des hommes. D'accord ? Ça, c'est un point important. Disons pas que le Saint-Esprit n'utilise jamais d'autres moyens pour vivifier ou réconforter l'âme des hommes, mais les Écritures sont le moyen par lequel il agit habituellement, principalement. Et puis, il fait référence ici à Éphésiens 5, 26, qui parle d'être lavé par la parole, par l'eau de la parole, merci. Et il dit, il n'agit jamais qu'en parfaite conformité avec elle, c'est-à-dire les Écritures. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit agit, à travers, toujours en conformité à sa parole, c'est sa propre parole, mais aussi à travers sa parole. Donc, c'est l'Esprit qui a forgé donc, cette arme, qu'on appelle l'épée, qui est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Et puis, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est que la parole de Dieu est l'arme par laquelle l'Esprit remporte la victoire aussi. Ce n'est pas seulement qu'il l'utilise, mais qu'il l'utilise avec efficacité. Il remporte la victoire. Ça, c'est l'arme qui va vaincre toute résistance quand elle se trouve dans la main du bon combattant. Parce que vous savez bien, prenez l'épée la meilleure du monde. Je parle d'une épée physique. Et puis donnez-le à Timothée. Vous allez voir que l'épée ne gagne pas tout seul la guerre. Il faut savoir manier une épée. Et la Bible, c'est l'épée de Saint-Esprit, pas seulement dans le sens qu'il a forgé, pas seulement dans le sens que c'est lui qui l'utilise, mais dans le sens que quand c'est lui qui est actif, il remporte la victoire. La parole de Dieu divorcée de l'Esprit, en fait, n'a pas d'effet. Attention, ne tordez pas le sens de ce que je vais dire. Hein. Mais écoutez-le bien. La parole seule n'est pas suffisante. On dit que la parole est suffisante, dans un sens. Mais notez, si vous êtes en 1 Thessaloniciens, 1, verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Notre évangile ne vous a pas été prêché en quoi ? En parole seulement. Il peut y avoir un évangile en parole seulement. C'est bien évidemment le cas. Il dit que ce n'est pas le cas pour eux, mais il semble que ce soit possible. Moi, je peux prêcher... Je mets ça entre guillemets, hein, mais je peux prêcher un très beau message, un très beau serment. Moi, je pense que c'est beau, peut-être les autres pensent que c'est beau. Mais si ce n'est que moi qui manie l'épée, elle n'aura pas de résultat. mon évangile demeure parole seulement. Il faut que l'Esprit soit présent. Et il faut qu'il agisse. Et c'est pour cela que même la prédication de la parole, même vous, quand vous prêchez, hein, quand vous annoncez l'évangile, n'a pas toujours le même effet. Il y a plusieurs facteurs, mais ça c'est un des facteurs. Il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Il était là aussi. Et nous voyons donc que c'est l'Esprit qui œuvre, qui fortifie même celui qui prêche, ou celui qui annonce, ou celui qui partage. Donne cette parole. Et donc nous voyons donc l'Esprit à l'œuvre, on a vu ça déjà, hein, que ce soit dans la vie de Jésus, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie des autres apôtres. L'Esprit est à l'œuvre donc dans celui qui annonce. Mais il faut aussi que l'Esprit soit à l'œuvre dans celui qui écoute. Et juste un verset pour cela, c'est 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel, on lui donne les choses de l'Esprit. On lui montre l'épée de l'Esprit, on lui donne la parole de Dieu. Et l'homme naturel, que dit la Bible, n'accepte pas les choses de l'Esprit. C'est tout. C'est la fin. En fait, elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand il dit spirituellement, c'est pour ne pas le distinguer du physiquement, mais il faut être très... Non, en fait, écoutez d'autres traductions. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Car on ne peut en juger que par l'Esprit. Encore la même phrase, mais dans d'autres traductions françaises. Encore une troisième. Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Donc il faut l'Esprit pour celui qui annonce, il faut l'Esprit aussi pour celui qui reçoit. Nous devons prier chaque fois que la Bible est donnée, ou la parole de Dieu est annoncée, que ce soit derrière la chair, que ce soit individuellement, il faut prier pour celui qui annonce et pour celui qui entend. Pour pas qu'il soit des auditeurs oublieux ou des gens comme sur le bord de la route où Satan il enlève tout de suite la semence. Donc, pour conclure, ne cherchons jamais à voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre sans son arme de choix, son épée qui est la parole de Dieu. Mais ne cherchons pas non plus à se servir de la parole de Dieu sans la présence et l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut jamais chercher à diverser ces choses. Nous ne pouvons pas manier la parole divine tout seul. Nous ne pouvons pas la rendre efficace. Elle restera parole seulement si l'Esprit n'est pas à l'œuvre. Donc, pour application, très pratique, demain matin, prends la Bible, et avant de lire, priez Dieu qu'il te donne l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, pour ouvrir les yeux de nos cœurs, comme dans par la Bible, notre entendement, pour pouvoir la comprendre, pour l'appliquer. Et puis faites de la lecture aussi de la Bible une priorité. Si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas dire qu'on veut que l'Esprit agisse. On a un homme fort, on dit... Je le veux dans mon équipe, mais avant qu'il vienne jouer dans notre équipe, on va lui lier les mains derrière le dos et on va lui lier les pieds. Qu'est-ce qu'il peut faire après? On veut bien que Dieu nous aide et on ne veut pas de son arme de choix. On ne veut pas lire la Bible, on ne veut pas la mémoriser, on ne veut pas la méditer. C'est ça qu'il utilise dans nos vies. Et puis quand nous allons partager la parole, priez que Dieu vous donne une plus grande mesure du Saint-Esprit pour que votre évangile ne soit pas prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Parce que quand les gens sentent que nous sommes persuadés, hein, ça communique aussi la force qu'a eue cette parole dans nos vies et qu'elle peut aussi avoir dans leur vie.